Radio Sud, la radio de toutes vos musiques.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour un nouvel épisode de l'émission Ni chaud ni froid en direct. Pour m'épauler, je suis entouré de Sophie Lafalise.
Bonjour à tous.
Sophie.
Bonsoir.
Et Chris Aydama viendra plus tard et un petit peu en retard. Comme invité, on reçoit Sarah Nekal. Bonjour.
Bonsoir.
Et artiste peintre.
C'est ça.
Et Olivier Simon, aventurier et marcheur, on peut dire ça ?
Bonjour, bonjour. On peut dire ça, ouais, c'est marcheur, un petit peu aventurier dans tous les sens et un petit peu foufou.
Sarah, vous êtes artiste peintre et votre domaine est le portrait et le réalisme magique. Vous pouvez expliquer ce que c'est, ce mouvement artistique ?
Oui, c'est une des appellations qu'on peut utiliser pour parler de ce genre d'art. On peut aussi parler d'art visionnaire, c'est un petit peu la forme la plus générale pour parler de ça. C'est un art en fait qui va essayer de montrer en image ce qu'on peut tous ressentir, mais qu'on ne voit pas. Justement, donc ça va être un peu autour du monde surnaturel, du monde un petit peu spirituel, un petit peu aussi, du monde des sentiments. On va essayer vraiment de mettre ça en image, en fait, et d'essayer de traduire ça avec des tableaux, plein de formes d'art différentes. C'est très vaste.
Oui, j'ai vu ce que vous faites, c'est impressionnant.
Merci beaucoup.
C'est hyper beau.
Merci.
Pourquoi êtes-vous mise à la peinture ?
Je pense que c'est en voyant d'autres artistes justement de ce mouvement où ça m'a complètement époustouflée. Je me suis dit, si je veux me mettre à quelque chose, c'est à ça. Et du coup, j'ai commencé à me former un peu là-dedans, à faire mes propres tests par moi-même. Je n'ai pas eu les résultats que je voulais forcément tout de suite, parce que c'est des techniques quand même qui sont assez complexes. Donc j'ai été me former auprès de gens qui étaient déjà bien avancés dans le domaine. J'ai beaucoup appris et je suis vraiment tombée en passion pour tout cet univers-là.
Et d'où vient cette imagination débordante ?
Ouf, l'imagination, je pense qu'on en a tous. C'est un peu comme les muscles, là, ça se travaille à force de faire appel à elle. Je pense que ça se développe, ça grandit. Et puis on réalise en fait qu'on a une imagination dont on n'avait même pas idée. En fait, une fois qu'on commence vraiment à aller la solliciter, à essayer de se donner les moyens de l'exploiter, tout d'un coup, il y a des choses qui sortent de notre esprit. On se dit, waouh, j'avais ça à l'intérieur de moi. Je pense que tout le monde possède ça.
Oui, alors moi, le mot magique, évidemment, ça me parle énormément. En général, quand on fait de l'art, comme ça, c'est une grande passion, mais qui vient de quelque part. Est-ce que chez toi, c'est venu d'une grand-mère, d'une maman, d'un papa ? D'où est-ce que ça t'est venu exactement ? Ou ça t'est venu comme ça, de toi-même ?
Mais j'ai assez naturellement dessiné depuis toute petite, spontanément, sans me poser de questions. Maintenant, il se fait que mon grand-père était peintre aussi. Bon, il a laissé tomber, on n'en a jamais parlé dans la famille, mais finalement, même sans que je le sache consciemment, je pense que quelque part, il y a quelque chose comme qui peut se transmettre d'une génération à l'autre.
Et donc, c'est magique aussi, du coup.
Hein. Oui, complètement.
Ça ne s'explique pas, mais c'est là.
C'est wow. Ça.
Olivier Simon, vous pensez quoi de Sarah Nekal ?
Ben, moi, je pense que j'ai été voir justement sur son compte Facebook et j'ai trouvé ça vraiment très, très beau. C'est vraiment de l'art, c'est vraiment super magnifique. Les portraits sont juste sublimes. Donc, un grand bravo à elle.
Merci beaucoup.
Sarah, je vais vous demander une chanson qui définit votre art que vous pratiquez, vous avez choisi.
J'ai choisi une chanson de Santi qui s'appelle Respira, qui est une musique très douce, exotique. C'est vraiment l'imaginaire en musique de ce qui peut être représenté en image chez moi. Ouais.
Nous allons être entraînés dans l'imaginaire.
J'espère.
Cataratas al sonar, suena por el mar, de un árbol, modeando serranías al sonar.
Olivier, nous allons passer à vous. Vous appréciez la relation avec la nature, pourquoi ?
Alors, pour beaucoup de choses. La relation avec la nature, ça, c'est très vague. Hein. J'aime les couleurs de la nature, j'adore toutes les couleurs de toutes les saisons, parce que c'est super beau, déjà au départ. Et puis, j'aime la nature tout court, simplement parce qu'elle nous rend heureux.
Sophie ?
Oui, mais je suis jusque-là tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Moi, je connais Olivier personnellement, et c'est quelqu'un de totalement passionné. Je vous invite vraiment à aller voir sa page Facebook à la cueillette des plantes sauvages si vous êtes intéressé. Non seulement par rapport aux petites maladies qu'on peut avoir, aux grosses maladies qu'on peut avoir, à tout ce que les plantes nous donnent de positif. C'est très, très intéressant.
Et en plus de ça, c'est gratos. C'est quand même pas mal.
Ce n'est pas négligeable.
Olivier, en 2019, tout a changé pour vous. Vous pouvez un peu expliquer ?
Alors moi, en 2019, oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, surtout une petite péripétie, je vais dire, qui est une tumeur au cerveau. Donc voilà, c'est un cancer du cerveau qui a été, on va dire, difficile parce que c'est tombé au moment du Covid. Donc c'était un petit peu dur, donc tout le monde était renfermé. Moi, j'étais sur le billard. Et je pense que d'un côté, je ne suis pas mécontent d'être passé par là parce qu'on redécouvre pas mal de choses qu'on n'avait peut-être plus. Quand on sait qu'on peut perdre la vie d'un jour à l'autre, je pense qu'il faut en profiter à 200 000%. Et je dis 200 000, c'est petit.
On voit les choses autrement.
On voit carrément les choses autrement, oui. On se dit qu'on a la vie, on nous l'a donnée, il faut en profiter un maximum. Et puis, je pense qu'il faut arrêter de se plaindre. Surtout, il ne faut pas se plaindre. Enfin, moi, de mon côté, me plaindre, je pense que c'est un truc que j'ai du mal.
Et donc, finalement, la nature, ça a été pour toi un endroit où tu as pu te ressourcer par rapport à ce cancer, cette tumeur que tu as eue. Est-ce que ça t'a aidé à trouver l'essentiel en toi ? Est-ce que ça t'a aidé à méditer ? De quelle façon est-ce que la nature, par rapport à ce que tu as vécu, a pu t'aider ? Puisque tu es passionné depuis toujours.
Exactement. Alors, ce qui m'a aidé, c'est très simple. C'est en fait, pendant le Covid, vous étiez tous obligés de rester cloîtrés chez vous, ce qui était très compliqué pour moi parce que je n'aime pas rester chez moi. J'ai horreur de ça, j'ai besoin de bouger. Et moi, je suis sorti tous les jours. Donc, je suis sorti avec toutes mes agrafes sur le crâne, je suis parti, j'ai protégé ma tête avec une casquette, un bob ou que sais-je. Et ça m'a permis de partir à la rencontre justement de ces plantes de beaucoup plus près. Et je me suis dit, avec toutes les aventures que je fais, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas justement aller à l'essentiel et de dire, mais je m'en vais, mais comment je peux me nourrir quand je m'en vais ? C'est vrai que si on s'en va et que demain c'est la guerre et tout s'arrête, comment est-ce qu'on se nourrit ? Aujourd'hui, je crois qu'on l'a beaucoup oublié.
Et je trouve que ce témoignage est important parce qu'il y a peut-être des gens qui sont dans ta situation actuellement et qui ne savent pas vers quoi se tourner pour aller mieux, vers quoi se tourner pour s'enrichir un petit peu plus. Et ton témoignage est important pour ça.
Exactement.
Il faut un mental d'acier pour parcourir autant de kilomètres. À pieds nus aussi, que j'ai
vu. Alors, ouais, c'est ça, ouais. Alors, un mental d'acier, ouais, peut-être, ouais, je sais pas, enfin bref. J'irai pas jusque-là, mais... Il faut du mental, ouais. Il faut du mental, mais je vais donner un petit exemple. Il faut du mental aussi, pour vous tous qui êtes ici, vous avez aussi des difficultés dans votre vie, certainement, alors qu'elles soient petites, grandes ou pas. Moi, je me dis toujours, je suis désolé de l'expression, mais je suis né dans la merde. Et ce qui me sauve, c'est simplement c'est la hauteur, la différence de boue qu'il peut y avoir. Et tant que ma tête est sortie de cette boue, je respire encore. Mais c'est ça aussi qui est bien, c'est pouvoir justement dépasser ses limites. Et encore une fois, on en revient sur ne pas se plaindre, parce que forcément, quand on marche pieds nus, je ne vous cache rien, ça fait mal, c'est dur, il fait chaud, le thermac est brûlant,
oui,
il fond.
Et je te coupe, Olivier, excuse-moi, mais Angelo a omis de dire que tu as fait 700 km à pied. Donc tu as fait Bouillon-Paris à pied en 2018.
À pieds nus, ouais.
À pieds nus. Et donc, c'est 700 km que tu as dû faire.
Hein. Et j'ai renouvelé l'opération de cette marche l'année passée avec 700 km à pieds nus, ouais. J'avais fait la première fois donc, environ 384 km donc, de Bouillon à Paris. Donc, j'ai rejoint la capitale. Et ça a été déjà très dur parce que c'était, y avait des chaleurs de fou. mais je me suis vraiment marré comme un petit fou. Juste à une place à Meaux, je me suis fait agresser, par des jeunes banlieusards qui m'ont volé mon couteau, mon panneau solaire, enfin des petits trucs un petit peu. Mais bon, voilà, il n'y avait que ça. Et puis j'ai pu finir mon parcours mais vraiment au top. J'étais super fier. Ils étaient venus avec un car et tout pour m'accueillir. J'ai eu quelques petites larmes, mais pas grand-chose. J'étais plutôt content de retrouver justement toutes ces personnes qui m'ont suivi et qui m'ont. C'est grâce à eux en fait que j'ai réussi aussi. Et puis voilà, pas justement que moi.
Quand vous marchez, vous pensez à quelque chose, vous faites le vide ou vous avez des idées qui viennent à l'esprit ?
Très très bonne question. Je fais le vide, total. Alors je repasse tout dans ma tête. Tout mon chemin de vie en fait repasse dans ma tête. Et je peux vous dire que pendant des heures, quand on marche 17 à 18 heures par jour sans forcément s'arrêter, on a le temps de ressasser tout ce qu'il y a dans sa vie. Et c'est pour ça que je me dis qu'au final, j'ai pas trop à me plaindre, encore une fois. Mais ouais, je fais le vide. Il y a des moments où c'est très dur et des moments où ça peut aller super bien, quoi. Mais voilà, encore une fois, j'ai pas à me plaindre et je suis très, très heureux d'avoir fait ça et je ne regrette absolument rien.
Sophie ?
Voilà, moi, j'ai bien entendu. Et sans fausse modestie, on peut quand même dire que 700 km à pied, nu surtout, il faut avoir un mental d'acier. Il faut le reconnaître.
Il faut, voilà, peut-être vu comme ça, oui, mais j'ai pas l'habitude, c'est vrai, de me dire que voilà, c'est bien. Enfin, je suis fier de ce que j'ai fait, je suis fier de l'avoir réussi, simplement pour la simple et bonne raison que je sais que ça aide les autres. C'est surtout ça. Et c'est, je crois que c'est la plus belle chose qu'on peut tirer et la plus grande fierté que j'aurais, c'est vraiment d'avoir aidé les autres sur des associations caritatives.
Je vous ai demandé de choisir une chanson qui définit votre passion pour la nature.
Alors, je l'ai sûrement déjà pas oublié, mais vous la connaissez certainement mieux que moi.
Je me soigne avec les plantes.
Ah ben voilà, c'est ça, je me soigne avec les plantes.
Voici que l'eau de mon chaudron frémit, entre en ébullition, quelques racines de pissenlit à la décoction. Une larme d'hydrolat, valériane, cassis, pétale de calendula pour soigner mes soucis. J'ajoute une pincée d'origan, de la nigelle dans du miel pour attirer les corrigans. Passiflore ou bardane en élixir floraux, je purifie mon antre à la soja ou au palo santo. Fruits, graines, feuilles, écorce et racines, chaque plante serait donc un recueil de médecine. Et celle qui nous ferait le plus de bien ne viendrait pas de si loin, elle pousserait même dans nos jardins. En cueillant la mélisse pour soulager mon ventre, je rappelle au labo que mon corps n'est pas à vendre. Pour me tenir loin de tout ce que les lobbies favorisent, je m'en vais me soigner chez mon herboriste. Si dans la comté on m'appelle le vieux druide, c'est pour les secrets de mes potions apaisantes. Dans le vieux grimoire qui me sert encore de guide, dorment les histoires racontées par les plantes. Mon jardin est vert, garanti sans pesticides, gentiment offert par la nature environnante. Pleine de ces fleurs qui sont aussi nos racines, une médecine naturelle et abondante.
Je me soigne avec les plantes, elles soulagent mes problèmes. Le système
pharmacopée, sirop à boire au goulot. Je me soulage au tucilage et à la sève de bouleau. Spiruline, chlorelle, prêle ou romarin, de la cannelle ou du thym, offert par les lutins. Une feuille de plantain, ça nous plante un décor. Macérat de consoude pour qu'on soude nos corps. Tenture de millepertuis, quand je sais plus ce qui m'arrive, je m'en vais cueillir du lierre pour en faire ma lessive. Et la menthe de mon amande suffit à me nourrir. Je cultive la marrante pour garder le sourire. Son caractère piquant et ses pouvoirs enfouis. Existe-t-il une femme aussi belle que l'ortie, que je puisse l'inviter à des câlins nature, que l'on s'en aille ensemble compter les cailloux, récolter l'arnica, parfait pour les coups durs, et bien sûr du gingembre pour les coups de mou. Si dans la comté on m'appelle le vieux druide, c'est pour les secrets de mes potions apaisantes. Dans le vieux grimoire qui me sert encore de guide, dorment les histoires racontées par les plantes. Mon jardin est vert, garanti sans pesticides, gentiment offert par la nature environnante. Pleine de ces fleurs qui sont aussi nos racines, une médecine naturelle et abondante.
Je me soigne avec les plantes, elles soulagent mes problèmes, botaniquent le système.
I'm
amour spagyrique, baiser au curcuma, au nom d'un monde magique que l'on porte en soi. Jusque dans le désastre, des plantations de soja, tourisme ayurvédique, chaman et ayahuasca. Mais comment cueillir les plantes quand on les trouve belles? Savoir le sacrifice d'en extraire leur essence. Au regard de la lune, sèche les immortels et pousse la calune jusqu'à sa florescence. Écrire sur une ardoise chacune de leurs vertus. Quant à celle de l'armoise qui ne les a pas lues, je me soigne aux épices, j'aime les abeilles, mais n'allez pas croire que je suis propolis. Je ne peux chanter longtemps sans mon sirop de chantre. J'ai promis à maman que je parlerai pas du chanvre, que chacune de ces dames nous récite leurs poèmes. Botanique le système. Si dans la contrée on m'appelle le vieux druide, c'est pour les secrets de mes potions apaisantes. Dans le vieux grimoire qui me sert encore de guide, dorment les histoires racontées par les plantes. Mon jardin est vert, garanti sans pesticides, gentiment offert par la nature environnante. Pleine de ces fleurs qui sont aussi nos racines, une médecine naturelle et abondante.
Je me soigne avec les plantes, elles soulagent mes problèmes.
Si les plantes nous l'accordent, c'est qu'elles ont la raison. Moi je reçois ce qu'elles offrent comme un poème. Elles dessinent le décor au rythme des saisons.
Je choisis la vie de bohème.
Elles accompagnent les corps vers la guérison. Elles révèlent les trésors de leur écosystème. Elles qui font pousser les cœurs jusqu'à la floraison.
Je leur dis merci et je
t'aime. Je me soigne, je me soigne. Je me soigne, je me soigne. Je me soigne, je me soigne. Je me soigne, je me soigne.
Avec les plantes.
Je me soigne, je me soigne. Je me soigne, je me soigne.
Avec les plantes.
Je me soigne, je me soigne. Je me soigne, je me soigne.
Avec les plantes.
Sarah, vous avez aussi ce lien particulier avec la nature?
Ben, je pense que la nature est le plus grand des artistes. De toute façon, ça, c'est indéniable. Donc, je pense que tous les artistes, quand même, de manière globale, ont un lien particulier avec la nature, en tout cas la sensibilité de voir ce que la nature nous offre. Je pense qu'on y... Tout, les couleurs, les formes, les associations, les compositions que la nature fait, c'est assez inégalable. Donc oui, pour moi, la nature, c'est vraiment la plus grande source d'inspiration et aussi d'apaisement. Quand parfois on devient fou dans l'atelier, qu'on ne sait plus trop où donner la tête, aller se perdre un peu dans la nature, ou plutôt se retrouver, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, quoi.
Et vous pouvez peigner dans la nature, par exemple?
Oui, absolument, oui. Oui. Alors, ce n'est pas ce qu'il y a forcément de plus pratique, parce que j'utilise beaucoup de matériel quand même. J'utilise aussi de l'acrylique, qui est quand même un produit qui est toxique, avec des molécules qui n'ont rien à faire dans la nature. Donc, j'évite d'aller faire de l'acrylique dans la nature. Mais les petits croquis préparatoires... C'est vraiment plus pour l'inspiration que j'irai dans la nature, moi. Et puis après, je me mets en œuvre dans mon atelier.
Oui, alors moi, j'encourage vraiment tous les auditeurs à aller voir l'Instagram de Sarah. Donc, c'est Sarah avec le trait d'union vers le dessous, Nekal, N-E-K-A-L, pendant qu'on est en train de discuter, parce que vous verrez vraiment tout ce qu'elle fait. Tout est très, très beau. Moi, j'ai vraiment une acquaintance particulière avec Frida Kahlo. Alors, il n'y a pas que Frida Kahlo, évidemment, sur l'Instagram de Sarah Nekal. Mais il y a une petite touche qui est très sympa. Beaucoup de portraits, beaucoup de couleurs. C'est absolument magnifique.
Merci beaucoup.
Très, très beau.
Vous êtes des admirateurs.
Ah ouais, ça y est.
Ah, mais ça fait plaisir, oui. On est bien reçus. Hein.
Combien de toiles avez-vous peint?
Ça dépend des toiles dont je suis fière ou tout et n'importe quoi. Parce que tout et n'importe quoi, ça fait beaucoup.
Ce que vous avez le plus fière.
Celle dont je suis fière, je dirais qu'il y en a 4-5 vraiment. Parce que je mets beaucoup de temps dessus et que je ne la lâche pas tant que je ne suis pas satisfaite du résultat. Donc ça peut aller jusqu'à des mois. Il y en a une où je suis restée un an dessus. Jusqu'à ce que je finisse par me dire maintenant que je suis contente.
Vous êtes têtue, vous aimez bien que ce soit bien fait, c'est bien.
J'imagine, oui, oui. Je pense que dans tous les domaines, je pense que si on veut du résultat,
la précision.
À un moment, oui, c'est ça. Il faut un peu aller se surpasser, voir jusqu'où on peut aller. Faut...
Et puis il y a le sentimental aussi quand on fait une œuvre qu'on aime. Par exemple, moi j'ai essayé de lui acheter Frida Kahlo, enfin en tout cas l'inspiration Frida Kahlo, elle n'a pas lâché. Hein.
Non, c'est ça. On me pose souvent la question, est-ce que tu vends? Et je ne suis pas du tout dans cette dynamique de faire pour vendre, parce que ça casse totalement mon processus créatif. Et que c'est quelque chose que je fais vraiment de manière un peu thérapeutique. Pour moi, c'est de la méditation active. Et vu que je passe beaucoup de temps avec cette toile-là, ben, je m'attache à elle et j'ai un peu envie de les garder comme des journaux intimes, finalement. Je n'ai pas vraiment envie de les vendre.
Avez-vous déjà été partie à l'étranger pour d'autres expositions ou exposantes?
Oui. Donc, j'ai vu beaucoup d'expositions à l'étranger. J'ai beaucoup voyagé. Donc, ça, je me suis beaucoup nourrie. Après, l'année passée, j'ai eu la chance d'aller à New York chez Alex Gray, qui est un de mes mentors, qui est un peintre d'exception. Il est vraiment le leader, si je puis dire, du domaine. Donc, j'ai été faire un stage séminaire chez lui. Cet été à New York, et ça, pour moi, c'est un des souvenirs les plus incroyables. Tout ce qu'il m'a transmis, c'est une chance, vraiment.
Sophie ?
Oui, alors moi, je me demandais un petit peu quel public est-ce que tu touches le plus ? Est-ce que tu as l'impression de toucher plutôt les jeunes, plutôt les jeunes adultes, plutôt les personnes plus matures, ou est-ce que tu as l'impression que ton art touche vraiment tout le monde, au contraire ?
Mais au départ, vu que moi, c'est quand même un secteur de niche, les arts visionnaires, c'est pas vraiment très populaire, c'est pas ce qu'on trouve dans les galeries d'art contemporain. Du coup, moi, j'ai eu vent de ça en allant à des festivals plutôt psychédéliques et ce genre de choses. Donc, je pensais qu'il y aurait que ce public-là qui allait être intéressé. Et puis maintenant, dernièrement, que je commence à m'exposer dans la région, je réalise qu'en fait, les gens de tous âges et de tous horizons sont sensibles à cet art-là. Ça, c'est une belle découverte, ça me fait super plaisir. Et je vois qu'en fait, ça touche tout le monde finalement, parce que c'est des sujets qui sont assez mondiaux.
Et quel est le pays qui t'a le plus touché, là où tu as exposé ? Alors, New York, sans doute ?
Je vais dire oui, effectivement, les États-Unis, dans le sens où le mouvement est très développé là-bas, qu'il y a beaucoup de gens qui créent dans ce sens et qu'il y a une espèce de bouillon artistique, en fait, aux États-Unis, qui n'est pas si présent en Europe. Hein. Les arts visionnaires, ce n'est pas du tout développé ici en Europe. Hein. On n'est pas beaucoup.
Olivier ?
D'ailleurs, là-bas, sur les bâtiments, il doit y avoir pas mal de belles peintures. Ou...
Ouais, il y a tout ça. Street art, oui, effectivement.
Ça, c'est beau, ça, là-bas.
Alors après, moi, j'étais plutôt dans la nature. J'étais en dessous de New York, vraiment, dans un domaine des arts visionnaires. C'est des gens qui ont dédié leur vie vraiment à développer ça et qui ont ouvert un grand musée, justement, parce que les galeries ne font pas de la place à ce type d'art. Alors que pour moi, c'est ce qui se fait de plus incroyable. Les artistes de ce monde-là sont vraiment les plus prolifiques des temps de lesquels on vit. Mais ouais, là, on était dans la nature, donc c'était un autre cadre. C'était pas la ville, d'ailleurs. La ville, elle était très étouffante de retourner à New York après d'avoir eu cette expérience vraiment de peindre dans la nature, dans un endroit très calme. C'est vrai que du coup, la ville était un peu
agressive. Quelle expérience incroyable.
Ouais, ça doit être magnifique. Ouais. L'expérience doit être très, très belle. Ouais.
Sarah, je vous ai demandé de choisir une chanson qui illustre votre passé.
Oui, j'ai choisi Shadé, du coup.
Pourquoi ?
Parce que mon papa écoutait ça et que c'est très sentimental, ça j'aime beaucoup. Voilà. Et puis je trouve que c'est très apaisant comme musique aussi.
Olivier, parlez-nous de votre connaissance en plantes sauvages.
Ah, ben là, on va mettre des heures. Non, je vais essayer de faire court. Ben, ma connaissance des plantes sauvages, en fait, c'est simplement que tout commence au pas de sa porte. Donc déjà, on sort de chez soi et il y a des petites plantes qui poussent partout. Mais on les piétine, on les arrache. On ne leur fait pas forcément du bien. On ne garde que ce qui est cultivé et que ce qu'on connaît. Alors que la plupart de ceux qu'on arrache, ben c'est les meilleurs. Et ça, je trouve ça vraiment dommage.
Et il y a des plantes qui soignent mentalement et d'autres qui soignent des plaies?
Alors moi, je vais dire que toutes les plantes soignent mentalement. Parce que soigner mentalement, c'est aller se promener en forêt. Ben c'est des plantes partout, herbacées. Il y a de la plante partout. Et rien que de se balader, ben je trouve que déjà, ben ça guérit. Enfin, moi, c'est ce que je trouve en tous les cas. Et bien sûr, il y a des plantes qui soignent bêtement. Une petite anecdote, quand on saigne du nez, on va utiliser l'achillée millefeuille qui va être hémostatique et qui va faire qu'on arrête de saigner. On fait une petite boulette, on la met dans son nez, il faut juste la connaître.
Et le coquelicot, vous pouvez en parler?
Alors, je peux parler du coquelicot. C'est Papaver roeras, donc c'est une plante de la famille des papaveracées, en fait, qui a 4 pétales rouges chiffonnés dont on peut manger. Alors moi je m'en régale, c'est un petit goût de noisette, et on peut même se régaler des jeunes feuilles printanières qui ont un petit goût de noisette aussi et qui sont très très bonnes en salade. Vous pouvez en rajouter même des petites graines à la fin qui font comme un poivrier, on la retourne, on vide ça. Et c'est super bon, comme petit condiment, par exemple.
Et d'où vient cette connaissance?
Alors, cette connaissance, elle vient, je pense, depuis pas toujours, mais cette connexion nature depuis toujours, ça c'est sûr. Et cette connaissance, en fait, c'est justement à la période du Covid qui a fait que je me suis vraiment intéressé à ça, parce que je partais voyager, je partais dans des aventures un petit peu fofolles, et je ne savais pas comment m'en nourrir, et c'était très frustrant pour moi, parce que partir à l'aventure comme ça et ne connaître que quelques plantes, c'est très frustrant. Tandis que quand on sait sortir de chez soi et manger tout ce qu'on veut, quand on les connaît, ben ça c'est hyper enrichissant.
Oui, donc vous aurez compris que si vous voulez faire une petite marche rapide dans les bois, il ne faut pas être accompagné d'Olivier parce qu'il va vous expliquer toutes les plantes de partout que vous ne connaissez pas. Par contre, si vous êtes intéressé par tout ce qu'il raconte, et c'est hyper passionnant, on est dans le domaine de la magie avec Sarah aussi, et ici c'est magique parce que dès qu'on a quelque chose, alors moi j'ai une petite fille qui s'appelle Olivia, dès qu'elle a un petit bobo, hop, Olivier, qu'est-ce que je peux utiliser comme plante? Olivier, je viens de me faire piquer par une ortie. Eh ben, utilise du plantain. Et donc les balades avec Olivier, si vous êtes intéressé, sont magiques. Il en organise, tu en organises régulièrement.
Oui, j'en organise.
Et donc suivez vraiment son Facebook, c'est passionnant.
Sarah, quelque chose à rajouter sur Olivier?
Mais que j'aimerais bien effectivement en apprendre plus, ça a l'air d'être un beau puits de connaissances, et au plaisir de lire un petit peu ce que tu proposes, où tout est rassemblé, oui, effectivement, c'est des trésors.
Quand tu veux.
Bah oui.
Christelle, vous venez d'arriver, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour, bonjour.
Olivier, je découvre un petit peu l'univers, et votre univers, et en effet, on ne se rend pas compte de la richesse qui nous entoure. Maintenant, je suis arrivée au moment donné où toi, tu disais que les mauvaises plantes sont souvent les meilleures.
Exactement.
Et en effet, je vais faire un parallèle, mais par exemple, le pissenlit, c'est une plante que personne n'aime. Mais alors, je ne sais pas au niveau comestible pour nous, mais en tout cas pour les abeilles, c'est la première nourriture des abeilles.
Elle est
moi, par exemple, je suis une atagora, je ne vais jamais aller couper les pissenlits parce que c'est la première nourriture des abeilles et qui vont nous produire après toutes les autres richesses et les autres plantes avec la pollinisation.
Alors, je rajoute juste un petit quelque chose. C'est pas parce que vous en ramassez un panier que ça va foutre la biodiversité en l'air, absolument pas. Par contre, c'est bien de les connaître. Donc, en fait, quand on va sur des spots cueillir, on va bien sûr pas prendre tout le champ. On ne saurait pas parce qu'il y en a tellement.
Parties.
Famille des astéracées, le pissenlit, et tout est comestible. Et d'ailleurs, si vous récoltez la racine de pissenlit, qui va repousser automatiquement, si vous en laissez un petit morceau, vous allez pouvoir faire un succès d'année de café avec justement ces racines, et vous allez pouvoir aussi les faire frire comme des frites pendant 10-15 minutes après les avoir préalablement nettoyées. Et ben ça va faire comme des frites, comme le goût du topinambour par exemple, et les enfants raffolent vraiment. Ça c'est super bon, en fait tout est bon sur le pissenlit.
Les plantes sauvages comme les champignons, il faut s'y connaître, il y a des toxiques.
Alors exactement, il y a des toxiques, mais il n'y en a pas tant que ça, mais il suffit d'une comme la grande ciguë, la petite ciguë, l'onanthe safranée ou la ciguë vireuse, qui sont des plantes de la famille des apiacées, qui sont mortelles à faible dose, comme aussi la digitale pourpre, qui contient de la digitaline. D'ailleurs, on soigne le cœur avec ce genre de plantes. Et ça, il faut les connaître. Mais il y en a 50 de mortelles, on va dire, qui sont très dangereuses. Et il y en a 1500 qu'on peut consommer, 1500, 1600 répertoriés qu'on peut consommer. Donc ça nous laisse quand même un énorme panel pour pouvoir se nourrir et franchement aller découvrir tout ça. Et en général, elles poussent au pied de notre jardin. Donc,
Sophie ?
Oui, mais je n'ai rien à dire de plus. Je trouve ça super passionnant, comme je l'ai déjà dit.
Moi, je voulais faire un petit parallèle. J'ai eu l'occasion d'aller au Canada, de rencontrer un Amérindien. Et pareil, hein, balade dans la végétation locale. Ça, est-ce bien. Que toi, tu as eu l'occasion de pouvoir explorer comme ça sur d'autres continents, des plantes qui sont justement... Et en fait, il m'expliquait exactement la même chose que tu viens de le faire. C'est que tout, on a tout sur place, en fait. Donc ça veut dire, à chaque 50 pas, il pouvait nous montrer une des plantes qui pouvait, en effet, être comestible.
C'est ça. C'est mon gros problème, justement, quand je vais me promener, par exemple, avec Sophie Lafalise et toute la troupe, c'est que je m'arrête tous les... on va dire tous les mètres.
Tous les deux pas.
Donc,
tous les deux pas.
Donc, on n'avance pas beaucoup parce que j'ai tellement cette envie de pouvoir montrer tout ça. Et effectivement, en voyageant, par exemple, un qui m'a beaucoup marqué, on va y venir, c'est vraiment l'Amérique du Sud, quoi. Là où il y a vraiment un panel de plantes qui poussent dans tous les sens, et là où il faut faire extrêmement attention parce qu'on est tout petit dans ce monde-là, en fait. Hein. On est plus petit qu'une fourmi et il faut extrêmement attention. Ça, c'est...
Justement, pour faire le parallèle, il y a 15 jours, on avait justement du Mexique. Une de nos invités venait du Mexique, etc. Mais voilà, moi, je n'ai pas de connaissances par rapport aux plantes mexicaines. Mais en effet, maintenant, ça reste quand même des terres arides, hein, quand même.
Oui, oui, exactement.
Donc,
oui.
Je pense qu'eux ont la connaissance vraiment
voilà,
des lieux et qu'il faut, par rapport à là où on vit, pouvoir savoir s'accaparer, en fait. S'accaparer, façon de parler, mais je veux dire... Privoiser, c'est plus joli, les végétaux qui nous entourent.
Ça, il faudrait des centaines et des centaines d'années pour tout connaître. Ici, même sur ma bête petite vie, je vais dire, elle sera tellement courte que je n'aurai pas tout appris. C'est ça qui est bien aussi avec les plantes sauvages, c'est qu'on peut apprendre, mais vraiment toute notre vie, quoi.
C'est riche.
Dites-nous votre exposition à chacun, Sarah et vous.
La prochaine fois qu'on pourra voir mon travail, ça sera à Chassepierre, donc au Festival des Arts de Chassepierre.
Le combien ?
Le 17, si je ne dis pas de bêtises, c'est à la mi-août.
Alors on mettra bien évidemment les dates sur le Facebook de Radio Sud. Chassepierre qui est magnifique, est un magnifique festival, il faut le dire.
C'est ça.
Ouais, c'est très beau, j'habite à côté.
Olivier, les projets ?
Alors moi, les projets, j'en ai tous les jours. Déjà, en sortant d'ici, j'aurai certainement d'autres projets. J'en ai tout le temps quand je vais ici. Donc, je vis vraiment sur l'instant. Moi, je ne vis pas peut-être dans deux semaines, je vais créer... on va sortir, on va aller dans les bois, on va aller découvrir toutes les plantes qu'il y a. Mais je n'ai pas... Des projets, c'est tous les jours. Dès que je sors d'ici, j'ai des projets. Avant de venir, j'avais déjà plein de projets.
Vous avez participé au Télévis. Vous pouvez raconter...
Ouais, j'ai participé aventure. Au Télévis. Grande leçon de vie aussi. 700 km pieds nus. C'est pas rien, mais très belle aventure. J'ai quand même beaucoup souffert des pieds, sans me plaindre, mais ça faisait un petit peu mal quand même, ça picotait, on va dire. Et j'ai souffert aussi de l'eau, parce que il y a des moments où il faisait très très chaud et le macadam était vraiment très fondu, et j'avais pas forcément le choix d'avancer. Alors j'aurais pu me faire des petites on va dire des petites chaussures en écorce, mais je voulais pas, simplement parce que sinon je rendais l'aventure trop facile. C'est déjà pour ça que j'avais commencé pour Bouillon Paris à pieds nus. On m'avait dit, pourquoi tu fais ça à pieds nus, t'es complètement fou. Oui, je le sais, mais je trouvais ça trop facile. Alors pour sortir de sa zone de confort, c'est mieux de faire quelque chose qui est beaucoup plus compliqué.
Ça a votre honneur.
Oui, bien sûr, oui. Et j'étais très fier, d'ailleurs, j'en suis encore fier.
Et pourquoi cette décision pieds nus? Pour l'ancrage au niveau de la terre ou, enfin, pourquoi cette décision, en fait, de le faire à pieds nus plutôt que chaussée, en fait?
Et pourquoi pas le faire pieds nus? Voilà ma question.
Oui, mais c'était un défi personnel. Alors, je veux dire, au-delà de la cause, etc. Mais
oui,
c'était vraiment un challenge de pouvoir... Mais pourquoi cette décision de se dire, tiens, Je vais le faire à pieds nus plutôt que sur les mains.
Ouais, c'est clair. Mais pourquoi ? Parce que simplement, je me dis, quand j'ai préparé ça, en fait, je dis à mon père, écoute, je vais partir pendant quelques semaines et puis je vais partir là-bas en chaussures, je m'en vais sur Paris. Il me dit à pied, oui, à pied. Et puis je me suis dit, c'est un peu dommage de ne pas faire participer les autres à ça pour des associations. Du coup, j'ai mon père qui travaillait à Libramont chez les polio-handicapés pour les elfes. Et ça m'a, je me suis dit, fais autre chose, Olive. Enfin, dans ma tête, je me disais, c'est pas assez, tout le monde marche. Et puis moi, j'avais envie de faire différent des autres. Je me suis dit, ben, tu veux te reconnecter à la nature ? Ben, pars, vas-y, pars, mais sans rien. Et là, je suis parti pieds nus. Et alors, c'est là qu'on se rend compte qu'on on est capable d'aller bien plus loin qu'on ne le pense. Tout est dans la force mentale, je pense.
Le dépassement.
Voilà, même le physique, hein, j'ai pas un gros physique du tout. Je n'en ai pas eu un. J'ai toujours des petits mollets de poule élevé en batterie, vraiment petits. Mais j'y suis arrivé. Et c'est ça le plus important, c'est pas d'avoir une grosse carrure, de partir. Et de toute façon, là-dedans, il n'y a pas de frime. Donc, ça passe ou ça casse.
Tout est dans la tête.
Tout est dans la tête.
Nous allons passer à la chronique de Sophie.
Alors, rebonsoir à tous les deux, j'ai fait vos chemins de vie. Alors moi je suis médium, comme vous le savez maintenant, et j'ai décidé de regarder un peu par rapport à votre date de naissance, où vous en êtes. Alors on va commencer par Sarah. Sarah, tu es née sous le chemin de vie 8, qui symbolise la maîtrise, la puissance et la réalisation concrète. Cette vibration invite à développer l'ambition, la capacité de diriger et une relation saine à la matérialité. Elle est appelée à apprendre à équilibrer le pouvoir et la sensibilité et à transformer les défis en opportunités de croissance. Alors tes défis à toi, c'est apprivoiser l'autorité, éviter l'excès de contrôle et cultiver la confiance sans rigidité. Est-ce que tu te reconnais un peu à ça ?
C'est à méditer, j'imagine, mais c'est intéressant, en tout cas comme piste, oui. Alors, il y a des choses assez enthousiasmantes là-dedans, oui.
Tu es cancer, donc tu es un signe d'eau lunaire. Le cancer est un signe gouverné par la lune, porteur d'une sensibilité profonde, d'un grand attachement aux racines et d'un besoin de sécurité affective. Tu es doté d'une intuition vive, d'une nature protectrice et d'une capacité à ressentir intensément. Tes ressources sont l'empathie, la créativité, la douceur et le sens de la famille. Et tes zones de vigilance, c'est plutôt la peur de l'abandon, la tendance à te replier dans ta coquille émotionnelle également.
Ah, c'est à son faute, là.
Alors, la combinaison chemin de vie plus cancer, le chemin de vie 8, pardon, plus cancer, cette combinaison crée une belle alchimie entre force intérieure et sensibilité. Tu es capable d'associer l'efficacité et la douceur, de construire des projets solides nourris par des valeurs humaines profondes. Et ta puissance est d'autant plus grande qu'elle s'autorise à écouter ton intuition et à honorer ton besoin d'émotions authentiques.
Eh ben,
voilà,
merci
pour toi, Sarah.
Merci.
Alors, pour Olivier, tu es chemin de vie 1. Tu es le chemin de vie du pionnier, du leader et de l'indépendance. Les personnes sous cette vibration sont venues expérimenter le courage d'avancer seules, d'affirmer leur singularité et de développer leur confiance profonde. C'est un chemin qui invite à prendre des initiatives, à ouvrir de nouvelles voies et à inspirer par l'exemple. Tes défis sont d'apprendre à ne pas te laisser dominer par ton ego ou ton impatience, accepter la coopération tout en affirmant ta vision personnelle.
Ben dis donc, c'est bien fait quand même.
Alors Olivier, tu es lion, c'est un signe de feu solaire. Le lion est gouverné par le soleil. Le soleil vient renforcer cette dynamique d'affirmation. Il apporte une énergie rayonnante, généreuse et charismatique, une capacité naturelle à fédérer autour de toi et à incarner ta force tranquille. Ton tempérament est souvent magnétique, chaleureux, animé par un profond besoin de reconnaissance et de création. Tes ressources sont l'enthousiasme, la créativité, la loyauté, la capacité à illuminer les autres. Et tes zones de vigilance, par contre, est l'orgueil blessé, la tendance à la dramatisation ou le besoin excessif de validation extérieure.
Bon, je pense qu'on est dans le copier-coller et ça, c'est vraiment parfait.
Quoi. C'est top.
Enfin, moi, je ne vais rien rajouter là-dessus, c'est vraiment très bien fait.
Et donc, pour terminer, la combinaison de ton chemin de vie 1 et de ton signe, le lion, amplifie l'élan individuel, la volonté de réussir, la confiance en soi et le désir de marquer ton empreinte. Tu possèdes un potentiel exceptionnel pour entreprendre, initier des projets et guider avec authenticité. Il est essentiel que tu gardes l'équilibre entre ta force d'affirmation et ta capacité d'écoute afin que ta lumière inspire sans écraser. Voilà pour vous deux, sur la seule base, finalement, de votre date de naissance. On peut en dire des choses en numérologie.
Oh.
Merci, Sophie.
Ouais, merci.
Très chouette.
Je vais remonter tout ça, moi.
Je vous l'enverrai.
On prend bonne note.
Merci Sophie. Nous allons passer à la rubrique hommage. Dites-nous chacun trois personnes importantes qui vous ont soutenu dans vos projets. Sarah ?
C'est un peu cocasse, mais je dois dire mon chat en premier, parce que c'est beaucoup d'isolement de travailler dans son atelier. C'est celui qui a toujours été là à mes pieds, donc merci mon chat. J'ai mon ami Razouani qui a déplacé tout mon matériel partout toutes ces années. Et puis les personnes qui ont acheté mes premières œuvres, mes premières croûtes, merci d'avoir cru en moi au début.
Olivier ?
Ma famille, mes amis. Voilà, je n'aurai que ça à dire. Les gens qui m'ont soutenu, surtout, qui m'ont beaucoup soutenu pendant toutes ces années. Et
ça compte.
Et ça compte énormément.
C'est essentiel, oui.
Voilà, mais surtout, enfin, si je devais rajouter quelque chose, mon frère qui est toujours avec moi, et ça, je crois que c'est le plus important.
Sarah, vous donnez des cours pour partager votre art ?
Oui, je suis professeure d'art plastique, oui, dans une école secondaire, et je donne aussi des cours particuliers à des adultes ou des enfants, tout public, quiconque est intéressé d'apprendre.
Quelle émotion vous ressentez quand vous peignez ?
Très varié, ça va du « je suis un génie » à « je suis une bonne à rien », il y a la frustration, il y a le plaisir, c'est très variable. On passe par toutes les couleurs, je pense.
Christelle ?
Non, pas du tout, je suis d'accord avec Sarah.
Moi, je suis assez intéressée par... quand tu dis, Sarah, que tu donnes des cours à qui veut apprendre, alors, si moi, par exemple, je prends des cours avec toi, qu'est-ce que je dois faire ? Quelles sont les démarches que je dois faire pour pouvoir prendre des cours avec toi ?
Tu me contactes et on se voit et tout simplement, la machine est lancée. Donc, tout le monde est apte à démarrer la peinture.
D'accord, Instagram,
Sarah Instagram, Miguel. Oui.
Parfait.
Olivier, vous aimez la transmission, ça vous tient à cœur ?
Alors, c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Je pense que c'était même dit ce que Sophie a dit précédemment. Et ouais, ça me tient largement, mais énormément à cœur, parce que c'est la transmission qui va faire que nos futurs enfants, que tout se passera bien. Et parce que je pense qu'on en oublie vraiment les grandes qualités. Et ça, je trouve ça vraiment très triste. Donc ouais, ça me tient énormément à cœur.
Et qu'est-ce que vous transmettez aux jeunes générations ?
Alors moi, je leur transmets justement le savoir des plantes. C'est surtout ça que je leur explique, qu'il faut se reconnecter à la nature sans téléphone, sans tout ça, ou du moins le faire avec, mais ne pas s'en séparer. Parce que si on s'en sépare, ça ne durera pas longtemps, c'est sûr et certain.
Et alors, c'est tout à fait possible parce que Olivier a un fils exceptionnel qui s'appelle Lucas. Et Lucas a 13 ans et est hyper, hyper intéressé. C'est vraiment loin de ce qu'on voit en général, hein, les enfants qui sont tout le temps sur leur téléphone. Comme quoi, ça peut vraiment passionner nos enfants si on y met du cœur.
Exactement, ça c'est sûr et certain. Puis, je pense qu'il faut juste un petit peu s'accroupir et regarder ce qu'il y a au sol. Hein. Au début, on ne voit pas grand-chose. Et puis, quand on approche justement cette plante, qu'on la touche, qu'on la sent, ben, on commence à avoir des saveurs, des odeurs et des choses qui se reconnectent à la nature. C'est ça le plus important. Et c'est ça qu'on a oublié et que je veux vraiment que les gens se reconnectent.
Vous pouvez parler de votre projet avec les personnes en difficulté ?
Alors, bien sûr, ouais, mon projet avec les personnes en difficulté, ben, ça va être... Enfin, moi, je me rapporte toujours, on va dire... Les personnes en difficulté, c'est plutôt les gens où j'ai été, comme par exemple quand j'ai fait Bouillon Paris à pieds nus, que ces personnes étaient des polyhandicapés, donc qui avaient beaucoup de mal. Ça m'a fait énormément plaisir d'être avec et de pouvoir participer avec eux, de voir qu'ils ont colorié, ils m'ont fait des dessins, ils m'ont montré. Et c'était ça la plus belle des choses, en fait. On n'aurait pas pu m'apporter mieux que ça.
J'avais une petite question, Olivier. Est-ce que tu fais des fois des interventions dans les écoles, etc. ? Parce que, bon, j'imagine qu'à l'école primaire, il y a des projets qui sont mis en place. Maintenant, il y a aussi en secondaire, par exemple, je pense à une option qui existe au premier degré, c'est Travaux Nature. Mmh. Et j'ai un ami qui est aussi passionné, comme toi, de la nature, la pêche, etc. Et je sais que c'était vraiment toutes des activités au contact avec la terre et connaître des plantes de base. Je veux dire, retrouver un petit peu l'essence, je veux dire, que la terre peut nous produire ce qu'on a besoin en suffisance pour se nourrir. Est-ce que tu as déjà fait des interventions comme ça, plutôt scolaires ?
Excellente question. Alors, j'ai essayé. Ça n'a pas fonctionné. Normalement, ici, sur Bouillon, dans pas très longtemps, je dois justement donner une petite sortie cueillette. Mais c'est très compliqué. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, se reconnecter à la nature comme ça, ça devient dur parce que les gens n'ont pas forcément confiance. Et puis, on va prendre plutôt son téléphone que la vraie connexion, parce qu'aujourd'hui, on est interdit de soigner par les plantes. C'est là, il faut aller dans une pharmacie, simplement parce que c'est les lobbies de la pharmacopée, c'est simplement ça. Donc, on est interdit de se faire ça. Mais pour moi, la vraie école, c'est justement l'école de la vie, c'est les plantes, c'est dehors. Si tout le monde passait son temps, ou tous les jeunes passaient leur temps à étudier dehors, ça irait beaucoup mieux que d'être assis sur un banc en regardant les carreaux derrière, à s'ennuyer et à se balancer des petites boulettes de papier. Que s'ils étaient dehors, ils s'émerveillent de plein de choses. Je ne comprends pas encore à l'heure actuelle comment est-ce qu'on ne le fait pas.
Alors, je suis une enseignante, donc, à mes temps perdus, donc, en fait, oui, je suis d'accord avec toi. Moi, j'imaginais il y a 30 ans qu'on serait dans une autre évolution. Maintenant, c'est encore resté très structurel, très cadré, un peu à l'ancienne, hein, comme nous, quand on était à l'école. Et il y a, par contre, il y a quand même quelques structures qui s'appellent justement l'école du dehors, où il y a un apprentissage qui se fait. Maintenant, je pense que c'est plus des écoles au niveau fondamental, primaire, mais il y en a très peu aussi, alors que je pense pas que la demande soit si moindre que ça du public. C'est juste que ça c'est un peu parallèle à la société et
ça
et
ce qui la sécurité, est mis en place.
Et probablement la sécurité, bon, si c'est encadré avec aussi des éducateurs et des professeurs,
oui, c'est
ça
sûr.
Peut tout à fait se faire. Maintenant, je pense que la transition vers la nouveauté est toujours un peu difficile.
Ah, mais ça prend du temps. Ça, de toute façon, ça va prendre
c'est
du
ça.
Temps.
Je pense qu'on est quand même dans une évolution, quand même, je trouve, ces dernières années, d'ancrage, de retour à certaines choses qu'on a perdues, parce qu'on se rend compte qu'en fait, la technologie, c'est bien, mais elle prend un peu le dessus sur tout.
Exactement.
Et qu'il faudrait peut-être trouver un entre-deux et pas passer par retourner en arrière où c'était mieux avant. Hein. Simplement se dire comment on peut allier le passé et
voilà. Puis on ne va pas vivre comme au Moyen-Âge. C'est pas ça qu'on... Enfin, moi, c'est pas ça que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est justement mélanger un peu les deux. Tout ce qu'on a oublié, c'est ça, parce que quand je vois, par exemple, qu'on arrache les plantes dans son jardin parce qu'on ne la connaît pas, je suis frustré. Alors que la meilleure des plantes, c'est de ramasser celles qui poussent, si on la connaît. Nous, on va faire pousser des légumes cultivés qui vont apporter moins de nutriments à notre corps. La réponse, elle est là, et je trouve ça dommage.
Vous avez participé à une émission de survivalisme, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce que vous retenez de ce passage ?
Alors, je retiens énormément de choses. Je retiens surtout qu'on est rien du tout sur cette terre. On n'est rien, franchement. Je suis parti 21 jours en jungle colombienne complètement nu, où j'ai été piqué par des milliards de moustiques. Hein, je pense qu'on peut dire des milliards, parce que j'en ai eu un paquet. J'ai photo à l'appui. Et voilà, sans technologie, sans rien. Et j'ai survécu pendant ces 21 jours à cueillir, à me nourrir, à chasser, à manger ce que je trouvais, à boire l'eau qui n'était pas forcément potable. J'ai bu au goutte à goutte, quand il fait très chaud, par une température de 40 degrés. Je me fais un filtre avec des cailloux, du plus gros au plus fin, et puis je bois. Et en buvant cette eau, c'est la goutte, elle fait. Voilà, on a envie de boire un énorme verre d'eau, mais on ne peut pas. Donc ça fait vraiment des leçons de vie hyper importante à retenir, parce que chez nous, on ouvre un robinet, l'eau arrive. Mais il faut bien se rendre compte que derrière tout ça, il y a énormément de gens qui font qu'on a de l'eau au robinet. Si la société s'arrête demain, il n'y a plus d'eau au robinet. Les toilettes ne fonctionnent plus, plus rien ne fonctionne. Et ce retour à l'instinct primaire, il veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est retour sans rien, quoi.
Et l'émission, elle est encore visible? On peut encore la retrouver sur YouTube ou autre?
Alors, je pense qu'elle était sur YouTube. Moi, je ne l'ai vue qu'une fois. Mais elle était sur YouTube, Retour à l'instinct primaire. Ouais, elle doit être... Vous tapez Olivier. Olivier en Colombie. Mais au pire, je pourrais te donner les infos.
Mais avec grand plaisir. Rien que pour les piqûres de moustiques.
Voilà.
Vous pouvez nous dire vos plateformes et vos réseaux sociaux?
Alors, les réseaux sociaux, ça va être... à l'accueil des plantes sauvages, voilà, c'est sur Facebook. Après, il y en a d'autres, mais ils vont certainement les retrouver aussi. Il y a YouTube, il y a enfin, tous les réseaux qui existent un petit peu en ce moment. À l'accueil des plantes sauvages.
Sarah ?
Moi, j'aurai le site web sarahnecal.com. Et puis, alors, pour me parler directement, c'est plutôt sur Instagram, sarah-necal.
Et alors, on mettra toutes les infos sur le Facebook de Radio Sud. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à aller liker la page. Vous retrouverez toutes les infos nécessaires dans la semaine.
Christelle, quelque chose à dire ?
Non, c'est très intéressant. Dommage que j'arrive, je suis arrivée en cours.
Oui, parce que c'est pas une mine dépitée.
Mais voilà, ça arrive. C'est la joie un peu des transports en commun et puis des imprévus aussi de l'aventure.
Exactement.
Et puis, et puis voilà, c'est des choix personnels, mais qui fait parfois qu'on est un peu entravé dans la vie tous les jours.
Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à Sarah Nekal.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Merci à Olivier.
Avec un grand plaisir.
Qu'est-ce que vous retenez de l'émission, ce qu'on a dit?
C'était super top, moi. Trop court, ouais. Trop court.
Oui, c'est ça. Très intéressant, beaucoup de contenu. On aurait aimé que ça dure.
Merci à mes deux co-animatrices, Sophie Lafalise.
Merci Angelo, merci Nathan.
Et Christelle Dama.
Merci Angelo,
oui, merci Nathan. Olivier, je vous demande de choisir une chanson qui symbolise votre passion pour nous quitter dans cette émission.
Je pense que vous la connaissez mieux que moi. Moi, j'ai pas une très bonne mémoire pour
Francis
ça.
Francis Cabrel.
Voilà, c'est celle-là.
Sans balcon, sans toiture, où y'a même pas d'abeilles sur les pots de confiture, y'a même pas d'oiseaux, même pas la nature, c'est même pas une maison. J'ai laissé en passant quelques mots sur le mur du couloir qui descend au parking des voitures, quelques mots pour les grands, même pas des injures si quelqu'un les entend. Répondez-moi. Répondez-moi. Mon cœur a peur d'être emmuré entre vos tours de glace, condamné au bruit des camions qui passent. Lui qui rêvait de champs d'étoiles, de colliers, de jonquilles, pour accrocher aux épaules des filles. Le matin vous entraîne en courant vers vos habitudes, et le soir votre forêt d'antenne est branchée sur la solitude, et que brille la lune pleine, que souffle le vent du sud, vous n'entendez pas. Et moi je vois passer vos chiens superbes aux yeux de glace, portés sur des coussins que les maîtres embrassent pour s'effleurer la main. Il faut des mots de passe pour s'effleurer la main. Répondez-moi. Répondez-moi. Mon cœur a peur de s'enliser dans aussi peu d'espace, condamné au bruit des camions qui passent. Lui qui rêvait de champs d'étoiles et de pluie de jonquilles, pour s'abriter aux épaules des filles. Mais la dernière cherche sa baguette magique, mon ami le ruisseau dort dans une bouteille en plastique. Les saisons se sont arrêtées au pied des arbres synthétiques. Il n'y a plus que moi. Et moi je vis dans ma maison, sans balcon, sans toiture, y a même pas d'abeilles sur les pots de confiture. pas d'oiseaux, même pas la nature, c'est même pas maison.
Écoutez Radio Sud à Isel et dans sa région sur le 105 FM.